Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. La prochaine semaine de la presse et des médias dans l'école, nous verrons ce dont il s'agit, pose une bonne question. Où est l'info? Elle nous donne l'occasion de nous pencher sur un enjeu, me semble-t-il, tout à fait majeur dans notre société, la place à donner à l'éducation, aux médias et à l'information pour faire face aux ravages de la malinformation, comme on dit malbouffe, de la post-vérité et de la désinformation. Cet ensemble de phénomènes impacte la solidité économique et la qualité professionnelle des médias, les journalistes dans leur formation et leur pratique, et bien sûr, les utilisateurs des médias dans leur statut à la fois de consommateurs et de citoyens. Pour y voir plus clair sur l'état de l'information aujourd'hui, sur la manière de le prendre en compte, il fallait prendre du recul, voire de la hauteur. Voilà pourquoi j'ai invité Jean-Pierre Véran, que je remercie de venir au micro de Divergence pour nous éclairer de ses analyses. Jean-Pierre Véran, vous avez évolué, vous évoluez encore dans le monde de l'éducation, notamment pendant 10 ans à Montpellier comme inspecteur d'académie, chargé des établissements de la vie scolaire. Vous êtes encore formateur associé à la faculté d'éducation. Vous avez mis ces expériences et votre connaissance du terrain, comme on dit, en contribuant avec plusieurs livres au débat sur les sujets concernant l'école. Citons les deux derniers de ces livres, en 2024 avec Roger-François Gauthier, Manifeste pour le collège, et tout récemment publié chez Berger Levrault, Oser une école commune, sous-titre « Savoir et agir pour faire société », écrit avec Régis Mallet. Avant de parler de l'éducation aux médias, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché, et que vous conseillez, vous recommandez à vos amis de passage?
Alors, je dirais 3 lieux, mais au départ, quand même, une première anecdote, c'est le fait que lorsque j'ai quitté la région parisienne pour venir à Montpellier, c'était en 1984.
Ah, ça fait donc 40 ans.
Ça fait 40 ans. Une collègue m'a dit, c'est un enterrement de première classe.
Ah oui, comme
c'est dire comment était perçu Montpellier en 1984. Je suis sûr qu'aujourd'hui...
Oui, comme une basse ville de province.
Basse ville de province, endormie, morte, etc. Bon, moi, je savais pourquoi j'y venais. Et donc, pour répondre maintenant à la question sur les lieux, j'en citerai 3 en allant du plus ouvert au plus intime. Le plus ouvert, je pense, au parc Montcalm,
ouais,
qui, pour moi, est un espace très précieux, d'abord parce que j'y vais marcher régulièrement et d'autre part parce qu'on y croise toutes sortes de gens. Et ce qui me plaît, c'est de voir que sur la piste du stade, on voit passer des trottinettes, des vélos d'enfants, des gens qui courent, et cela sans
des landos,
etc. Oui. Et cela sans agressivité, oui. Contrairement à ce, voilà, qui se passe dans la rue, quoi.
Oui. Donc, dans un espace partagé, ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement.
Voilà, vraiment partagé et avec la nature, l'impression qu'on est dans la nature, et puis que finalement, dans ce lieu, on fait société de façon positive. Ensuite, le deuxième lieu, c'est un lieu alors plus urbain, je pense, aux Halles-les-Sacs.
Oui.
Les Halles-les-Sacs, j'y vais régulièrement. Et ce qui me plaît là, c'est que finalement, avec les quelques commerçants qui sont présents dans cette halle, il s'établit une relation quasi amicale.
Ah oui, qui va au-delà du rapport.
Qui va au-delà du rapport.
Vendeur, acheteur.
Voilà. Du tout, on se parle, on parle de sa vie, de ce qu'on a vécu dans la semaine, etc. Bon, ça, je trouve ça très sympa. Et effectivement, ça crée, là aussi,
oui,
ça
contribue. Et l'acheter des lieux, je pense, favorise.
Voilà. Alors effectivement, là aussi, j'ai vu l'évolution de l'architecture.
C'est un peu forum, quoi, voilà. Avec la place centrale. Oui.
Voilà, ça c'est le deuxième lieu. Et le troisième lieu, je pense au cinéma Diagonale.
D'accord.
Parce que je crois que, enfin pour moi, c'est un élément indispensable de ma vie. Et c'est par ceci, oui, des manières...
La programmation
voilà, qui ouvre sur le monde, sur des films qu'on ne verrait pas, qu'on ne verra jamais ailleurs que là, etc.
Il y a bien l'Utopia, mais bon, là, c'est centre-ville.
Voilà.
Très bien. Et alors, deuxième et dernière question, là, un peu pour nous mettre en train. Vous habitez Montpellier, on l'a dit, depuis 40 ans. Alors, quel jugement vous portez sur les profonds changements que la ville a connus? Il y a un débat là-dessus. Eh bien, la ville a beaucoup changé, croissance démographique, effet, je dirais, pas seulement sur les embouteillages, mais un peu sur le changement d'échelle de la ville. Comment vous l'avez perçu, ça? Comment vous l'avez, ou le vivez, cette mutation?
Ben, écoutez, moi, je pourrais dire que je suis aux premières loges du changement, puisque j'habite avenue Clémenceau, donc avec les travaux de la ligne 5 depuis quelques années.
Là, vous êtes vraiment au premier rang, en effet.
Donc, c'est les premières
loges. Encore quelques mois de patience.
Voilà. Et en fait, je suis là aussi ravi de voir comment les choses évoluent, parce que j'ai connu l'avenue Clémenceau thrombosée en permanence, le bruit, les coups de klaxon, etc. Et je vois maintenant une avenue qui devient une voie partagée entre le tramway, les piétons, etc. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est bien caractéristique de notre temps, et je dirais du fait que, comme Montpellier, qui a établi la gratuité des transports en commun, en fait, tout ça, il y a une logique, je veux dire, une logique politique très intéressante qui me donne confiance pour l'avenir. Voilà.
Donc vous voyez les effets d'ores et déjà.
Bon,
Clémenceau, voilà. Donc. Très bien. Alors, revenons donc à la presse et aux médias. Donc, une des premières étapes de votre parcours professionnel était votre poste de conseiller information et communication auprès du recteur et de plusieurs recteurs de l'Académie de Montpellier. Je dis qu'au passage, bon, c'est comme ça que nous sommes connus, j'étais journaliste. Alors pourquoi avez-vous continué, en partie, à suivre ce domaine particulier, et comment ça s'est traduit dans vos travaux, notamment les livres auxquels j'ai fait allusion?
Ben écoutez, c'est assez intéressant, parce que je pense que mon parcours, il est assez représentatif de la réalité de l'école et puis des opportunités qu'elle peut offrir. Au départ, moi, j'ai fait une formation disciplinaire, j'ai fait mon agrégation de lettres, et j'étais professeur de lettres. Et lorsque un inspecteur de lettres est venu me voir dans ma classe, et m'a sollicité ensuite en me disant, écoutez, il y a un poste qui se libère à la direction du Centre Régional de Documentation Pédagogique, je vous y verrai bien, vous pourriez y défendre l'intérêt des lettres.
Ah oui, c'est là aussi de couper le terrain quand même de cette discipline. Oui.
Voilà, et donc j'y suis allé, parce que je me disais, bah, c'est l'occasion ou jamais de faire autre chose que ce que je sais faire déjà, et... À cette occasion, j'ai découvert tout ce qui concerne la documentation que je connaissais de façon très lointaine. Et donc, à partir de là, je me suis intéressé au travail des documentalistes. Je me suis intéressé à des supports importants de documentation qui sont les médias en général. Et par conséquent, lorsque j'ai décidé de concourir pour devenir inspecteur d'académie, j'avais le choix. Naturellement, j'aurais dû, si j'avais été bien dans les rails,
revenir
inspection d'académie d'être.
L'être.
Et j'ai pas choisi ça, j'ai choisi établissement et vie scolaire parce que, entre-temps, justement, le travail que j'avais fait au CRDP m'avait conduit à l'idée de l'établissement et du système établissement et de ce qui s'y joue, qui est autre chose qu'une approche sectorielle par discipline.
Un horizon plus large de votre activité professionnelle, de vos curiosités, de vos recherches.
Voilà, alors j'ajoute que pendant ces années que j'ai passées au rectorat et au CRDP, puisque j'avais deux fonctions cumulées, pour un seul salaire, je vous rassure tout de suite.
Rassurons.
Il n'y avait pas
de dépenses. Rassurons les contribuables.
Voilà, absolument. Puisque j'avais essayé de fonctionner, j'ai beaucoup travaillé avec la coordonnatrice académique du Clémy, Marguerite Cross, pour ne pas la citer. Et donc, on a lancé les premières semaines de la presse et on se déplaçait dans toute la région.
On va en parler.
Voilà.
Très bien. Alors, donc justement, la semaine de la presse et des médias dans l'école aura lieu du 24 au 26 mars, donc partout en France. Ce sera la 36e édition de cette opération, organisée au ministère de l'Éducation et au niveau de l'Académie par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui rassemble des ressources, des outils et méthodes pédagogiques. Alors, l'objectif tout à fait officiel de cette semaine, je le cite, aider les élèves, de la maternelle au lycée, on voit l'ampleur de l'ambition, à comprendre et à décrypter l'univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l'information, développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. Vaste ambition. Jean-Pierre Véran, pour que les auditeurs s'y retrouvent, par quel type d'action ces ambitions, ces objectifs se manifestent-ils, se concrétisent-ils dans les classes? Et que peut-on dire des effets de cette démarche?
Alors moi, je dois dire qu'il existe dans notre région, dans notre pays, puisque je suis allé voir ça aussi dans d'autres académies, notamment en Seine-Saint-Denis, il existe des choses remarquables. Moi, ce qui me frappe, c'est quand j'étais dans un lycée de d'Aulnay-sous-Bois, de voir des lycéens qui me décrivent leur vie de lycéen en me disant que finalement, c'est dur, ce qui compte, c'est la note. Il y a une forme de frustration par rapport à ce qu'est le contenu des enseignements et la forme que prennent les évaluations au lycée. Et en même temps, ils étaient là, en dehors des heures de cours, pendant 2 heures, dans leur atelier radio, ils participaient à l'opération Interclasse avec France Inter. Et ils prenaient tout le temps possible. Avec là, il n'y avait plus besoin, l'envie de partir, etc. Au contraire,
la motivation était forte.
La motivation était là.
La mobilisation aussi.
Voilà, ouais. Ils étaient mobilisés. Et là, pourquoi? Ben, parce qu'ils avaient la main. Parce qu'ils étaient en train de réaliser une émission. Ils m'interviewaient. Et c'était eux qui posaient les questions. Et c'était eux qui avaient préparé l'émission. Ils étaient vraiment très actifs. Et ça, je dois dire, je l'ai retrouvé à chaque fois. C'est ce qui me frappe. Les élèves me disent, quand ils sont par exemple dans un atelier radio, comme il y en a dans plusieurs écoles, collèges et lycées, ils me disent, là enfin, on a la main, c'est nous qui faisons, nous allons jusqu'au bout, on ne travaille pas pour le prof, on ne travaille pas pour la note, on travaille pour diffuser de l'information.
Donc, pour toucher un public.
Et on peut, voilà, on s'adresse à un public qui est vrai, quoi. Voilà. Donc, ça me paraît essentiel et c'est un élément très fort, positif pour la formation des élèves parce que ça donne à leur formation qui est quand même fortement académique à travers différents enseignements disciplinaires, tout d'un coup, ça leur donne une formation plus large. Qui s'adresse à la société, ce n'est pas faire des devoirs pour le professeur, etc.
Donc, cette ouverture, et avec du travail à la clé, parce que bon, il y a différentes formes, des rencontres avec des journalistes, on travaille sur des podcasts, par exemple, maintenant, tous ces supports journalistiques qui sont mis en œuvre et qui permettent d'avoir cette approche concrète et palpable, pour le coup. Quand on s'intéresse aux médias.
Vous savez, je vais prendre un exemple là, dans un lycée montpelliérain. J'y suis allé à 16h parce qu'il y avait justement des élèves qui travaillaient sur un podcast en espagnol à propos de la retirada. Et le prof d'espagnol qui était là me dit, vous voyez ces 4 élèves là, ils ont été absents toute la journée.
Ah oui, carrément.
Ils ne viennent pas en cours. Ils ne sont pas venus en cours de la journée parce que sans doute, ils avaient mieux à faire de leur point de vue. Mais en revanche, à l'heure du podcast, ils étaient là pour tenir leur rôle, pour s'impliquer. Et alors, c'était...
En travaillant.
En travaillant, évidemment. Et c'était ça qui était très intéressant parce que là, ils étaient très exigeants avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils enregistraient. Puis ensuite, ils s'écoutaient. Ils disaient, là, tu vois, tu as mal prononcé, là, ce n'est pas bon. Et l'autre le reprenait. Il y avait un sérieux, sans qu'il y ait besoin de pression adulte, ces jeunes se prenaient en main. Et ça, je trouve que c'est apporté au crédit, justement, d'une éducation média à l'information qui donne aux élèves l'occasion de se former en faisant.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, exemple à l'appui, pour que... on a une certaine idée des effets positifs de cette semaine. Il y a donc un acquis, mais dans votre blog sur Mediapart, qui avait donc attiré mon attention, vous avez dernièrement formulé une critique plus frontale. À vos yeux, la semaine de la presse des médias dans l'école, et plus généralement les engagements du ministère de l'Éducation en matière d'éducation donc aux médias à l'information, à ses limites, elle ne correspond pas aux enjeux. Alors, quelle est l'analyse qui vous a conduit à ce jugement-là, Peut-être, à partir de ce que chacun constate, le profond changement du contexte à la fois de la production et de la diffusion de l'information.
Alors écoutez, je vais prendre quelques exemples. En 2015, avec les attentats, notamment l'attentat contre Charlie Hebdo, la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, a souhaité que l'école se mobilise pour les valeurs de la République. Et parmi les décisions qui ont été prises en janvier 2015, il y avait celle de dire « dans chaque collège et lycée, il doit y avoir un média lycéen, notamment une radio lycéenne ou collégienne ». Nous sommes 10 ans après 2015. Est-ce qu'il y a dans chaque collège et chaque lycée un média lycéen ? Non.
Non, bien sûr que non.
Voilà. En 2022, Jean-Michel Blanquer, donc c'est un autre ministre, c'est une autre majorité. Ils tiennent le même discours et donc...
Alors, il n'y a pas eu, dans les politiques de l'État en matière d'éducation, sur ce sujet, il n'y a pas eu de changement de cap ni de rupture.
C'est toujours une priorité. Ouais. Et donc, Jean-Michel Blanquer publie une circulaire en 2023 disant « Généralisation de l'éducation aux médias et à l'information ». Généralisation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'éducation aux médias et à l'information pour toutes et tous. Il n'est pas besoin d'enquêter longtemps
pour savoir
que ce n'est pas le cas.
C'est entre cet affichage,
voilà.
On ne peut plus légitimer et partager.
Oui, oui, voilà.
Et la réalité dans les classes, c'est une énorme
fossé. Il y a un fossé. L'an dernier, en 2024, dans notre académie là, de Montpellier, la rectrice a annoncé que 80% des collèges et lycées s'étaient inscrits à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et 20% des écoles. Et elle disait, c'est un bon résultat.
Oui, 80-20.
C'est un bon résultat. Mais quand même, par rapport à l'objectif de généralisation affiché une année ou plus tôt par le ministère, ça veut dire que 80% des écoles ne participent pas à la semaine de la presse et que 20% des collèges et lycées non plus. Vous voyez, donc, il y a un écart entre... Alors, cet écart-là... Il est manifeste et on ne peut certainement pas incriminer les personnels. Quand je dis cela, je ne dis pas les profs des écoles ou les profs de collège et de lycée ne font pas leur boulot.
Ni le relais dans l'académie du Clémy.
Oui. Tout le monde est mobilisé là-dessus. Mais le cadre d'exercice de l'enseignement est tel qu'il n'y a pas assez de place, pas assez de respiration pour qu'effectivement les choses puissent se faire partout.
Alors ça, on en vient à une analyse plus large que vous faites sur la place des programmes, les conditions dans lesquelles les programmes fonctionnent, leur perpétuation et la difficulté à mettre de la souplesse, de la nouveauté ou la transversalité, je dirais, dans les programmes, dans les trois niveaux d'enseignement, l'école, collège et lycée.
Vous voyez, ce qui est incroyable en France et qui est quand même une spécificité quasi nationale, c'est le fait que lorsqu'on pense à l'école et aux enseignements, on pense tout de suite programme. Et quand on pense programme, on pense tout de suite discipline.
Oui, le programme avec un grand P, quoi.
Voilà, le grand P. Bon. Et donc, à partir de là, l'entrée, elle se fait par là, sans qu'on ne se soit donné au départ clairement, les finalités. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent à l'école, au collège, au lycée? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils maîtrisent, qu'ils sachent faire? Et quel type de citoyens souhaitons-nous former? Alors évidemment, l'éducation aux médias, à l'information, elle est essentielle si on veut des citoyens qui, effectivement, ne pratiquent pas l'exode informationnel, mais savent aborder... la recherche de l'information, croiser les informations, etc., pour avoir une vision absolument avertie de la complexité du monde. C'est essentiel. Mais comment le faire passer dans un moule qui n'est pas fait pour ça? Et donc, si vous voulez, l'école, elle dit, eh bien voilà, il y a des disciplines qui sont là. Ces disciplines, dans chaque discipline, on fait un programme et en général, les professeurs vous diront que ces programmes sont copieux, qu'une de leurs obsessions, c'est d'arriver à boucler le programme.
Oui.
Et par conséquent, toutes les éducations qu'on leur propose. Là, nous parlons aujourd'hui de l'éducation aux médias d'information qui est essentielle, mais il y en a d'autres, l'éducation à la santé, etc., etc. Toutes ces éducations-là, elles viennent en plus, mais sur quel temps? Dans quel espace? À quel moment? Et en fait, quand on regarde les emplois du temps des élèves, on se rend compte que, effectivement, ils sont pleins et qu'il est difficile de... Si on s'en tient à un temps scolaire qui est fractionné en disciplines,
on
aura du mal à y arriver. Voilà. Donc, il faudrait changer complètement.
Alors, c'est ce que vous dites, je pense que les auteurs ont compris. C'est un ordre scolaire figé qu'il faut repenser pour reprendre un des mots. Alors, parmi les points que vous mettez en avant, et d'ailleurs que vous mettez en avant d'ailleurs, le cadre général de la semaine de la presse et des médias, je le rappelle, un des objectifs, c'est forger l'identité de citoyenne des élèves. De votre côté, vous allez plus loin, vous sonnez une espèce d'alerte en parlant d'urgence civique. Hein, pourquoi là, mettre le doigt sur cet enjeu flagrant?
Ben, écoutez, moi, je prendrai là aussi des exemples récents. On a évoqué tout à l'heure l'exode informationnel. Cette étude qui a été menée par la Fondation Jean Jaurès avec l'appui d'Arte d'un autre organisme, étude, elle montre par exemple que chez les 18-24 ans, il y a les trois quarts des 18-24 ans qui se surprennent à passer un temps inattendu et qu'ils ne souhaitaient pas y consacrer à scroller sur les TikTok et Snapchat, etc.
À déambuler
sans qu'il y ait autre chose qu'une sorte de promenade passive qui ne nourrit pas leur réflexion critique. Et ça, c'est le premier élément que je voulais donner. Le deuxième élément, c'est que, par ailleurs, nous avons vu en l'été 2023, les banlieues s'enflammaient. Et lorsqu'il y a eu ces soulèvements de jeunes, on a eu des écoles qui ont brûlé. Quelle est la question?
Ah oui, ça choque, hein, bien sûr. C'est pas anodin. Quoi, pour
et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que, actuellement, se dire qu'on forme le citoyen, on ne le forme pas bien. Oui. En tout cas, pas bien partout. Donc, c'est vrai que repenser notre organisation, l'organisation de nos enseignements, en disant qu'il y a des priorités et que parmi ces priorités, peut-être que la priorité, c'est pas la dictée que l'on fait, dont les ministres sont très friands. Ce n'est pas simplement le lire, écrire, compter dont on nous rebat les oreilles. C'est effectivement comment on va former un citoyen qui a le sentiment, quand il est à l'école, qu'il est considéré comme un citoyen en devenir et non pas comme un pion ou comme un décrocheur qu'il faut mettre sur la touche. Ça, ce sont des vraies questions. Et donc, il va de soi que enfermer les élèves dans un système d'enseignement qui ne fait pas sens pour eux et leur faire des cours sur la liberté, l'égalité, la fraternité. J'entendais récemment des profs d'un collège parisien qui se sont mobilisés juste avant les vacances de Noël parce qu'ils savaient qu'il y avait dans leur classe des élèves qui dormaient dehors. Et ils se sont débrouillés pour leur louer un Airbnb pour qu'ils puissent passer les vacances de Noël à l'abri. Et parmi ces profs, il y avait un prof d'éducation d'enseignement moral et civique qui disait je ne supporte plus de devoir faire cours en leur parlant des valeurs de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, en sachant que ces enfants dorment dehors.
Voilà. Bien sûr.
Vous voyez, il y a là une tension insupportable. Et effectivement, si on veut que l'école réussisse à former les citoyens de demain, eh bien, il faut effectivement qu'on prenne les questions autrement que bien par sûr. L'approche traditionnelle.
Du coup, l'école, ce n'est pas l'école de l'autorité, l'école des autres, c'est mon école, donc je n'y mets pas le feu.
Voilà,
je résume un peu abruptement l'objectif.
Oui.
D'accord, très bien. Alors, on a avancé. Alors, un petit mot quand même rapidement là sur cette affaire d'éducation aux médias. Bon, je résume la question que j'avais prévue. Il y a un certain nombre d'initiatives. Comme la presse occitanie fait quelque chose qui s'appelle l'esprit critique depuis de nombreuses années, plusieurs centaines d'élèves sensibilisés, notamment à la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, en sus de celles qui a le label, le prestigieux label ministère de l'Éducation? Est-ce que ça vous paraît participer d'une préoccupation plus large et qui concerne notamment les professionnels de l'information? Je parle du col de la presse et j'ai eu le même écho dans l'école d'un directeur de l'école de journalisme de Lille qui m'a dit à peu près la même chose, d'inciter de former les journalistes à ces enjeux, de donner à comprendre, de décrypter le fonctionnement des médias et du métier de journaliste.
Je crois que là, on touche aussi une question très importante, c'est-à-dire que l'école ne peut pas avoir l'exclusivité de la formation. Et que l'école réussira d'autant mieux qu'elle établira des alliances éducatives avec toutes sortes de professionnels qui peuvent apporter une contribution à la formation des élèves et à leur bonne connaissance de la réalité sociale. Et par conséquent, effectivement, que des médias se mobilisent, que des clubs de la presse se mobilisent, que les écoles de journalistes se mobilisent à cette occasion, c'est important. Et je crois que, justement, l'une des forces du CLEMI et de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, ça a été de, dès le départ, concevoir cette opération pédagogique importante comme une opération partenariale où il y a toujours représentants des médias et des représentants de l'école.
Il y a plein de journalistes qui apportent leur part à la Semaine de la presse.
Absolument.
Sous diverses formes. Ça,
oui,
je l'ai fait. Expliquer le métier devant une classe, je l'ai fait de cinquième, il y a longtemps, ça avait permis quand même de donner à comprendre un certain nombre de choses et avec, pour le coup, des élèves qui étaient en curiosité.
Et oui, absolument. Alors, pour les élèves, justement, c'est la rencontre aussi avec des professionnels. Si vous voulez, quand on... Alors, l'école, on dit, les élèves, il faut qu'ils fassent leur parcours à venir, c'est-à-dire qu'ils se préparent à la connaissance des métiers pour pouvoir s'orienter, bien choisir la formation qui leur convient pour leur métier de demain. Eh bien, à travers les métiers des médias, on bien peut sûr. Découvrir là très concrètement des gens et des professionnels qui donnent, qui font reculer aussi les a priori, qui font reculer les représentations.
Oui, parce que c'est un métier qui charrie beaucoup de mythes,
absolument.
Positifs ou négatifs.
Oui, absolument.
Alors, à propos, je dirais, de mythes ou de représentations, ce sera ma dernière question, Jean-Pierre Véran. Quel est, sur ce sujet que nous avons exploré aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information, l'idée reçue, la fausseté, je veux dire, quelque chose qui encombre les propos et que vous efforcez de chasser?
Alors écoutez, moi j'ai le souvenir, c'est encore une anecdote, mais je trouve qu'elle est révélatrice. Nous avions invité, lorsque j'étais au CRDP, Régis Debray à venir rencontrer des enseignants, etc. Et je lui avais posé une question justement relative à l'importance des médias, et notamment à l'époque de la télévision, la prise en compte de la télévision par l'école, par l'enseignement. Et Régis Debray m'avait répondu superbement, « Je préférerais toujours Voltaire à Poivre d'Arvor. »
Ah d'accord, oui, je vois, c'est-à-dire camper...
Voilà.
Du haut de...
Et il pensait que le débat était fermé, qu'il avait conclu le débat, que j'étais par KO, quoi.
Ouais.
Parce qu'effectivement, Voltaire est...
Ah bah oui, c'est pas la même maille.
C'est pas la même maille. Mais en fait, c'est bien les deux qu'il faut faire.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et donc, si vous voulez, cette idée qu'on ferait baisser le niveau parce qu'on travaillerait sur Midi Libre plutôt que sur un texte de Voltaire, eh bien, c'est une mauvaise idée. Et ça, je pense que certains ont encore le sentiment aujourd'hui que finalement, se consacrer trop à l'étude d'un article de journal ou d'une émission ou d'un podcast, tout ça...
Ouais, c'est renoncer, quoi.
C'est en quelque sorte abandonner la culture.
Voilà.
Parce qu'ils ont une conception de la culture très étriquée.
Voilà, bien sûr. Bon, ben, ça sera le dernier message que vous avez transmis à nos auditrices et auditeurs, Jean-Pierre Véran. Merci à vous et à une prochaine fois.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.